Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avez-vous remarqué, mes bien chers frères, la belle correspondance entre l'Épître et l'Évangile que nous venons de lire? La Sainte Église semble les avoir rapprochés tout exprès pour qu'ils s'éclairent et se renforcent l'un l'autre, afin de nous encourager et de nous raffermir dans notre vie chrétienne. D'abord, mes frères, savourons la douceur et la bonté de notre Sauveur. Quel soulagement, quel réconfort pour nous d'entendre son exclamation « Miséreor super turbam, j'ai pitié de cette foule ». Notre Dieu Tout-Puissant ressent de la compassion devant notre faiblesse et il partage réellement nos sentiments parce qu'il s'est réellement fait homme. Et comme dit l'Épître aux Hébreux, il n'est pas insensible à nos faiblesses, ayant été éprouvé comme nous par toutes sortes de maux, excepté le péché. Cette faim dans le désert, il l'avait lui-même éprouvée. Il la connaît par expérience personnelle. Et si lui-même a voulu la subir pendant 40 jours sans l'abréger par un miracle, il ne veut pas nous soumettre à pareille épreuve. Et comme il l'avait déjà fait une première fois au printemps près de Bethsaïde, notre Seigneur renouvelle donc le miracle de la multiplication des pains, mais cette fois-ci en été, dans le désert qui sépare les villes de la Décapole. Pourtant, mes bien chers frères, n'en restons pas là. Et tout en louant la bonté de notre Dieu, examinons de près les circonstances de ce miracle qui reste, il faut le voir quand même, très rare, même parmi les miracles de notre Seigneur. Car Jésus a guéri des centaines de malades alors qu'il n'a multiplié la nourriture qu'à deux reprises, ou si on veut, peut-être disons trois, en y ajoutant le changement de l'eau en vin lors du miracle de Cana. Et notre Seigneur explique dans la suite de sa phrase pourquoi il a opéré ce miracle. « J'ai pitié de cette foule, dit-il, miséreor super turbam », et il ajoute « car il y a 3 jours qu'ils me suivent et ils n'ont rien à manger ». Ce qui émeut notre Seigneur, c'est bien sûr leur détresse physique. Ils n'ont rien à manger. Mais c'est d'abord la confiance et le détachement avec lesquels ils se sont mis à le suivre. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus et en plein désert, sans provision, ils continuent à le suivre et à l'écouter sans se préoccuper du reste. Ils appliquent à la lettre la parole du psaume « Iacta super dominum curam tuam et ipse te nutriet » « Abandonne au Seigneur tous tes besoins et lui-même te nourrira ». C'est un conseil que notre Seigneur a lui-même réitéré. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice » et tout le reste vous sera donné par surcroît. Il y a une promesse, Dieu a promis, il a passé avec les hommes une sorte de contrat, il consent que les hommes se déchargent sur lui de tous les soins et de toutes les inquiétudes de la vie, il promet d'y pourvoir à condition, qu'eux-mêmes, de leur côté, le suivent, le servent et demeurent avec lui. Et évidemment, cette condition est primordiale. Il ne s'agit pas du tout, d'encourager la paresse ou la négligence, mais uniquement le vrai amour de Dieu qui sait sacrifier tous les biens et toutes les inquiétudes d'ici-bas pour se livrer entièrement au service de Dieu. Et de fait, c'est ce qu'a fait cette foule de 4000 personnes pendant 3 jours. Aussi, Jésus ne pouvait manquer de tenir sa promesse. Et ici, remarquons bien la différence entre deux circonstances. Quand une foule est venue le voir, attirée par l'appât des biens de cette terre-ci et voulant jouir sans effort des bienfaits temporels de notre Seigneur et que pour ça cette foule voulait le nommer roi, là, notre Seigneur s'est enfui. Il ne s'agissait pas de les encourager dans cette voie qui était uniquement la recherche des biens temporels au moindre effort. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, il ne s'agit pas du tout de cela. Ce sont vraiment des gens qui ont cherché le royaume de Dieu. Aussi, notre Seigneur exerce sa miséricorde envers cette foule. Finalement, cet évangile nous montre le zèle avec lequel nous devons nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ et nous détacher de tout le reste pour le suivre jusque dans le désert. Et alors notre Seigneur ne nous abandonnera pas. Contrairement à ce qu'on s'imagine parfois, le bonheur que Dieu nous promet n'est pas uniquement pour l'autre monde. Si dès ici-bas nous savons tout sacrifié à notre Seigneur, dès ici-bas, il nous rassasiera en nous donnant une paix, un bonheur, une petite participation au bonheur céleste, mais qui, si petite qu'elle soit, et si imparfaite qu'elle soit encore, dépasse déjà toutes les joies et tous les plaisirs que peut donner le monde. Donc, s'attacher à Jésus-Christ, se détacher de tout le reste, et pour le suivre jusque dans le désert. Et on retrouve précisément l'enseignement de l'Épître. Elle se termine par ces mots. « Regardez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu dans le Christ Jésus. » Et toute cette Épître est un commentaire de la transformation qui s'est opérée en nous lors du baptême, et également de l'engagement solennel que nous avons pris à cette occasion. Engagement qui est renouvelé souvent sous cette formule « Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. » Donc, le message général est très clair. De même que Jésus est mort et ressuscité, de même le baptême qui nous unit à lui opère en nous une œuvre de mort et une résurrection. Une œuvre de mort par rapport au péché dont nous devons nous séparer, que nous devons faire disparaître, auquel nous devons renoncer. Et une œuvre de vie, une résurrection à la vie de la grâce, la vie d'amitié avec Dieu. Et saint Paul nous dit, normalement, c'est définitif. De même que Jésus-Christ est mort une seule fois et qu'ensuite il est entré dans la vie glorieuse, de même, le baptême devrait nous faire mourir une fois pour toutes au péché sans que nous n'y retombions jamais et nous devrions entrer pour toujours dans cette vie nouvelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, saint Paul, qui a atteint une compréhension très synthétique du mystère du Christ, essaie souvent de dire plusieurs choses à la fois. Et son enseignement est souvent tellement riche, appuyant en même temps sur plusieurs aspects à la fois, qu'il peut paraître parfois un peu obscur. Par exemple, dans l'épître d'aujourd'hui, il compare le baptême à plusieurs mystères différents de la vie du Christ. D'abord à sa crucifixion et à sa mort, il parle de la crucifixion, il parle de la mort, mais il parle aussi de sa sépulture. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, et puis également de sa résurrection. Et il y a là plusieurs choses à la fois qui nous sont dites, et si on regarde un peu la suite, saint Paul parle aussi du vieil homme. Il nous dit « Le notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit ». Donc on peut se demander qu'est-ce que c'est que ce vieil homme et qu'est-ce que saint Paul appelle le corps du péché. Et puis pourquoi cette insistance non seulement sur la mort, la résurrection, mais aussi sur l'ensevelissement. Nous avons été ensevelis avec lui. Alors, l'ensevelissement, disons-le tout de suite, c'est parce qu'autrefois, le baptême se faisait couramment par immersion. C'est-à-dire, on ne se contentait pas de verser l'eau sur la tête, la personne était plongée dans l'eau et ensuite elle en ressortait. Et saint Paul voit dans ce rite une image de l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ce vieil homme dont il parle ? Qu'est-ce que ce corps de péché ? et qu'est-ce que ce crucifiement ? Ce vieil homme, attaché à la croix, c'est nous-mêmes, parce qu'il y a pour ainsi dire deux hommes dans chacun de nous, le vieil homme et le nouveau. Le vieil homme, c'est vous, c'est moi, considéré en tant que nous descendons d'Adam et que nous sommes héritiers de son péché. Le nouvel homme, c'est chacun de nous en tant que nous sommes incorporés en Jésus-Christ par le baptême. Nous sommes devenus, par ce sacrement, les membres de ce divin chef. Et donc, il faut faire mourir le vieil homme, c'est-à-dire mourir tout ce qui reste en nous de l'héritage d'Adam. Car si le baptême nous a délivrés du péché originel, il n'a pas effacer complètement les conséquences de ce péché. Nous avons encore la concupiscence et nous pouvons retomber dans des fautes. Et à cause de cela, il y a, pour ainsi dire, une double mort. Nous sommes morts au péché, mais il faut continuer à le faire mourir durant toute notre vie, et cela par la mortification. Nous devons participer au crucifiement de notre Seigneur en nous mortifiant. Parce que si le péché originel a été détruit une fois pour toutes, en vertu de la croix de Jésus-Christ, nous n'éviterons les péchés actuels qu'autant que nous pratiquons la mortification chrétienne. Et cette mortification est aussi exprimée par saint Paul sous l'image de l'ensevelissement. Parce que nous devons être séparés du monde, coupés du monde, et il ne peut pas y avoir de vie avec notre Seigneur Jésus-Christ, de vie de la grâce, sans cet effort de séparation, de coupure, de renonciation vis-à-vis du monde. Et c'est ainsi que nous sommes séparés de ce que saint Paul appelle le corps de péché. Ce qu'on appelle le corps de péché, ça peut s'entendre de différentes façons. Les exégètes donnent plusieurs explications. Mais on peut considérer ça comme l'organisation du péché, et notamment comme la concupiscence qui est en nous comme un grand corps qui a ses membres différents, qui sont l'orgueil, l'avarice et les autres vices. Et donc, le péché originel a été tué en nous, mais il faut continuer cette œuvre de mortification. Retenons donc cette leçon qui nous est donnée à la fois par l'Évangile et par l'Épître pour être rassasiés par notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous allons l'être si nous allons communier dans quelques instants, recevoir la Sainte Eucharistie, mais pour pouvoir vraiment bénéficier des grâces que notre Seigneur veut nous donner, notamment de cette paix, ce bonheur qu'il veut nous faire commencer à éprouver dès ce monde. Il faut nous séparer du monde et n'allons pas communier sans réfléchir à quoi notre Seigneur Jésus-Christ veut-il que je renonce pour pouvoir vraiment le suivre. Bon, le monde aujourd'hui est particulièrement séparé de notre Seigneur, il l'a toujours été à toute époque, il ne faut pas idéaliser les époques du passé, même au temps de chrétienté, au temps de Saint-Louis. Le monde était dangereux, mais enfin, il est certainement plus aujourd'hui qu'il ne l'a été à d'autres époques. Et en plus, il rentre bien plus facilement chez nous par tous ces moyens modernes que vous connaissez, téléphone, internet, télévision et autre chose. Donc, si nous voulons vraiment nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons sans cesse reprendre cette œuvre de renonciation. C'est le mystère de la mort et de la vie qui sont ensemble. Nous mourrons au péché pour vivre avec le Christ. Que la très sainte Vierge Marie nous aide à communier tout à l'heure, dans un instant, si nous communions, dans cet état d'esprit, en tout cas, à vivre dans cet esprit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.